Salut à tous. Backseat, c'est LE talk show d'actualité politique sur Internet. Si tu veux soutenir l'émission, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description pour faire un don du montant que tu veux ou alors pour faire un don mensuel.
Cette semaine, l'actualité, évidemment, c'est bien sûr la guerre en Ukraine. Il y a eu cette visite hallucinante de Volodymyr Zelensky, humilié par Donald Trump et son vice-président J.D. Vance lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. Il y a deux jours, Donald Trump a annoncé le gel de l'aide américaine à l'Ukraine. Pour rappel, les États-Unis ont accordé 114 milliards d'euros depuis le début de la guerre. Pour comprendre ce tournant géopolitique majeur et comment ces déclarations sont reçues par les premiers concernés, les Ukrainiens, nous sommes en ligne avec Joseph Roche, en direct de Kiev. Salut Joseph, comment ça va ?
Ça va, comment, vous m'entendez bien ?
On t'entend très bien Joseph, est-ce que tu nous entends toi ?
Ça va, parfait.
Nickel, j'espère que tu vas bien ?
Tout va bien, tout va bien.
Cool.
On accuse un peu le coup avec les nouvelles, mais...
On va en parler justement, tu vas nous en parler. Tu es journaliste freelance, tu es installé en Ukraine depuis 3 ans, tu t'intéresses particulièrement aux questions de défense, de diplomatie, mais aussi aux sujets de société qui concernent l'Ukraine. Toi qui es sur le terrain, c'est quoi les réactions que tu as entendues autour de toi à ce revirement, à ce qui s'est passé dans le bureau ovale avec Donald Trump ?
Alors, il y a plusieurs choses. Le revirement de la politique étrangère américaine, les Ukrainiens s'y attendaient. Et s'y attendaient depuis 1 an et demi, 2 ans, plus ou moins. Même pas que d'ailleurs de l'administration Trump, ils s'attendaient à un moment ou un autre que les Américains se retirent. Notamment, il y avait ces grandes questions avec Kamala Harris, qui, on le savait, n'aurait jamais pu, s'il avait été élu comme présidente, rassembler un nouveau paquet d'aide au niveau du Congrès. Donc ça, les Ukrainiens s'y attendaient. Par contre, c'est plus la méthode et la méthode Trump telle qu'on la connaît, qui est brutale, humiliante et aussi mensongère. C'est ça qui a beaucoup plus choqué l'Ukraine et les Ukrainiens. Donc il y a un peu un moment où les Ukrainiens sont quand même assez abasourdis, très déçus, même s'ils n'attendaient pas grand-chose des Américains. Je pense qu'ils s'attendaient à ce revirement, ils s'attendaient à ce que Trump soit comme ça. Ils font aussi face à beaucoup d'attaques en ligne, sur les réseaux sociaux, par des soutiens de Donald Trump depuis maintenant 2-3 ans, avec voilà, on se saigne aux quatre veines pour l'Ukraine, etc. Ce qui est faux, parce que l'Amérique fait beaucoup plus d'argent sur cette guerre qu'elle n'en dépense. Et aussi dans les chiffres qui sont avancés par l'administration de Trump, la plupart du temps, ce sont des chiffres qui sont grossis, gonflés. Donc voilà, c'est plus ou moins la réaction. C'est que d'un côté, on s'attendait au revirement de l'administration Trump, mais de l'autre, on est très choqué par la méthode.
D'accord, ok, je comprends. Il y a aussi un truc qu'on entend beaucoup dans la bouche de Donald Trump, c'est une remise en cause constante de la légitimité de Volodymyr Zelensky. Il l'a traité de dictateur, il a dit qu'il était très impopulaire, etc. Est-ce que c'est vrai en Ukraine ?
Alors, ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens ont tendance à laver le linge sale en famille, donc ce n'est pas les premiers ni les derniers à s'attaquer à Zelensky, parce qu'ils ont une vision très démocratique de ce que c'est. Ils sont très français pour ça, c'est qu'on peut vraiment critiquer le président sans qu'il y ait vraiment de difficultés. Par contre, des sondages montrent que Zelensky, pour janvier 2025, pardon, donc avant le clash avec Donald Trump, était plus ou moins à 55 d'avis favorables. Il était à 75 l'année d'avant, il était à 90% l'année d'avant, 90% pardon, c'est mon côté belge. Okay. Donc il a toujours une très forte légitimité au sein de la société ukrainienne, mais avec des reproches qui lui sont faits pour pas mal d'aspects, que ce soit notamment le fait de parfois avoir des personnes dans son entourage qui couvrent de la corruption, ou tout simplement le fait que la guerre continue, qu'il n'y a pas de victoire décisive, etc. Donc je pense qu'aussi Zelensky a un peu une tâche impossible. Mais en ce qui concerne les attaques contre la légitimité de Donald Trump, il est important de prendre en compte parce qu'il dit qu'il a annulé les élections. Mais ce n'est pas Zelensky qui a annulé les élections, c'est la constitution ukrainienne qui, en temps de guerre, comme d'ailleurs le prévoit la constitution américaine et la constitution française, prévoit l'annulation des élections en temps de guerre. Et pour justement lever cette interdiction, il faut faire une révision de la constitution, de l'article 19 de la constitution. Alors, il n'y a pas eu Donc pour ça, il faut mobiliser le Parlement, mais le Parlement n'a même pas été mobilisé jusque-là, étant donné qu'il y a 3 semaines, ils ont voté à l'unanimité avec une personne qui s'est opposée dans le Parlement ukrainien pour reconduire Zelensky dans ses fonctions jusqu'à la fin de la guerre. Et même là, aujourd'hui, les un peu old school politiciens ukrainiens comme Timoshenko ou Poroshenko, donc Poroshenko, l'ancien président ukrainien, ont dit qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'on n'est pas à la fin de la guerre.
Jules.
Bah justement, moi j'allais demander quel était l'état de l'opposition en Ukraine à l'intérieur et quel est aussi l'état du débat public en sachant que évidemment comme tu l'as dit avant, j'imagine que les Russes doivent peser un max y compris pour corrompre, pour démoraliser par tous les moyens possibles. Où en est le débat public? Est-ce qu'il y a un débat public encore en Ukraine? Que disent les médias? Est-ce qu'on y discute et si oui, on y débat de quoi?
Bien sûr. On en discute beaucoup, mais il y a un consensus autour du fait qu'il n'y aura pas d'élection tant qu'il n'y aura pas la fin de la guerre. Et d'ailleurs, la Rada, donc le Parlement ukrainien, a voté au début de la guerre qu'il faut attendre 6 mois avant la fin de la guerre. Enfin, il faut attendre 6 mois entre la fin de la guerre et des prochaines élections. Et en fait, les raisons pour lesquelles il n'y a pas d'élection, elles sont assez simples à comprendre, c'est qu'il y a 1 million de soldats qui sont mobilisés sur la ligne de front, il y a des millions d'Ukrainiens qui sont sous les territoires occupés, donc comment est-ce qu'on fait voter ces citoyens ukrainiens? Et aussi, il y a tout simplement des millions d'Ukrainiens qui sont toujours actuellement réfugiés aussi bien en Ukraine ou tout simplement en tant que déplacés internes. Donc par exemple la question des registres, par exemple pour des villes comme Pokrovsk sont complètement obsolètes aujourd'hui. Donc Pokrovsk est une ville dans laquelle il y a énormément de combats actuellement. La majorité de la population s'est enfuie. Donc comment est-ce qu'on organise des élections? Et surtout c'est que le peuple ukrainien et les Ukrainiens ne veulent pas mettre ni de l'argent ni des efforts dans des élections alors que on est vraiment dans une situation assez complexe sur la ligne de front où c'est vraiment compliqué. Surtout qu'on sait que les Russes ne sont pas les derniers à faire des attaques cyber ou même tout simplement des manipulations d'élections telles qu'on l'a vu.
Ce n'est pas exactement ma question, c'était que nous aussi, dans l'Union européenne, on va soutenir l'Ukraine parce que l'Ukraine représente le camp des démocraties libérales. C'est ça aussi ce qui va l'opposer à la Russie et ce qui va aussi l'opposer aux États-Unis dans pas longtemps. Et une démocratie libérale, c'est une démocratie dans laquelle il y a une liberté de la presse. Les Russes, eux, ont théorisé depuis longtemps que ça, c'était une de nos faiblesses, justement, cette liberté de la presse, le fait qu'on ait un débat public, qu'on puisse y dire des choses et que donc il fallait mettre ça sous perfusion de propagande comme on pouvait. Et donc je voulais savoir où en était l'état du débat public, parce que même il y a peut-être pas un débat sur le fait de est-ce qu'on va tenir des élections ou pas, mais si oui quel débat il y a encore et où en est la presse, quoi, voilà.
Alors la presse, alors dans une certaine mesure Donald Trump a rendu un grand service au débat public ukrainien dans le sens où il y avait on sentait qu'il y avait un essoufflement de l'unité nationale en Ukraine depuis 3 ans parce que la guerre est longue. Mais là Donald Trump dans une certaine mesure a redonné énormément de légitimité et en fait le débat autour des élections se pose même plus aujourd'hui où il y a vraiment un consensus sur le fait que ok Zelensky on peut ne pas être d'accord avec lui sur certains aspects, par contre il tient la route actuellement notamment pour les négociations avec les Européens, les négociations ici et là, donc on va pas remettre en question sa légitimité parce qu'il y a vraiment cette perception actuellement en Ukraine de dire c'est vraiment pas le moment de remettre en question le leader parce qu'on est dans une situation tellement périlleuse qu'on va pas en parler. Alors on en parle, on en discute, il y a des investigations qui sont faites toutes les semaines où il y a des ministres du gouvernement de Zelensky qui tombent, où il y a un commandant X qui tombe, un commandant Y qui tombe, donc là il y a vraiment une société civile qui se mobilise pour lutter contre la corruption, contre les abus de pouvoir, contre X et Y problèmes qu'il y a en Ukraine, et Dieu sait il y en a, mais par contre on fait corps autour du chef, et après, dès que les élections sont terminées, dès que la guerre est terminée, il y aura des élections. Et là, peut-être que Zelensky reste, peut-être que Zelensky part, ça c'est encore à débattre, mais il y a encore une vie publique, une société civile très active, et une opposition aussi en Ukraine qui est très active, notamment sur beaucoup d'autres aspects liés à plein d'autres choses que la guerre.
Léa.
Salut Joseph, merci beaucoup de prendre du temps pour parler avec nous ce soir. Moi je voulais te demander, est-ce que l'allocution de Macron et les annonces qui ont été faites hier, et plus globalement ce que propose Macron en général en soutien à l'Ukraine, etc., ont une répercussion, ne serait-ce que dans le traitement médiatique? Est-ce que c'est repris par la presse en Ukraine? Est-ce que l'opinion publique en parle? Et qu'est-ce que finalement les Ukrainiennes et les Ukrainiens, les premiers concernés, en pensent?
Est-ce qu'il y a des pouces Macron hier, comme nous?
Alors il y en a beaucoup, c'était un peu la une des journaux ce matin, moi j'ai aussi suivi l'allocution bien sûr. Alors il y a un peu un rapport, déjà on aime les Français en Ukraine, il y a un peu un rapport où la France est romantique, c'est joli, il y a la littérature, donc il y a vraiment un amour de la France en Ukraine. Donc, et on sait surtout que la France pèse au sein de l'Union Européenne, au sein de l'Europe, et aussi l'armée la plus fonctionnelle de tous les alliés en dehors des Américains qui sont plus vraiment des alliés aujourd'hui en Europe. Par contre, il y a un peu un terme en ukrainien qu'on utilise, que je pense qu'on peut utiliser en français, qui est macroné, qui veut dire, on dit beaucoup de choses, mais est-ce que les actions suivent? Mais là, pour la première fois, je pense que les Ukrainiens se disent qu'il y a vraiment un changement, parce que les Européens ont enfin compris. Alors, ils reprochent aux Européens d'avoir fait ça trop tard, Alors, vaut mieux tard que jamais, mais avec un peu ce reproche un peu amer qui est fait aux Européens de dire « c'est bien, mais on aurait dû faire ça il y a 3 ans ». Donc, les Ukrainiens sont quand même contents. Ils voient aussi qu'il y a les paroles qui sont suivies par les actes. C'est un peu, je vais dire, la première fois qu'on voit Macron qui fait des réunions avant et après son allocution qui vont dans le sens de ce qu'il annonce. Donc voilà, maintenant, on attend, mais je pense que c'est beaucoup plus quelque chose, et c'est comme ça que les Ukrainiens le comprennent, de dire que c'est beaucoup plus quelque chose qui est pour l'Europe, alors qu'il va bien sûr bénéficier à l'Ukraine, mais plus une prise de conscience que l'allié américain lâche, et en fait, de dire que ce qui pousse les Européens à s'unir, c'est pas tant la menace russe, mais c'est plus le désengagement américain. Alors, bien sûr, avec les Russes qui sont dans l'image, enfin, à l'horizon, dans la picture, mais c'est quand même plus motivé par la peur du désengagement américain que véritablement la peur de l'adversaire russe.
Alors, tu l'as dit, les États-Unis se désengagent, Donald Trump a annulé les crédits. Les Européens réagissent en annonçant de leur côté une augmentation de l'effort. C'est ce qu'a essayé d'expliquer hier Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé 800 milliards d'euros d'investissement dans les dépenses en matière de défense. Ma question, c'est est-ce que ça peut suffire? Est-ce que les Européens seuls peuvent porter une aide suffisante à l'Ukraine, ou est-ce que sans les États-Unis, on ne va pas y arriver?
Alors, moi, je serais plus du courant des optimistes qui disent que oui. Parce qu'aujourd'hui, la ligne de front, elle tient pour avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'humain. Donc ça, c'est les Ukrainiens. Et il y a eu des campagnes de recrutement assez massives en 2024, où maintenant, la situation sur le front, notamment au point de vue humain, est bien meilleure que 2024. Le deuxième pilier, c'est vraiment les obus. Et là, on a vu vraiment un effort des Européens depuis 2022 pour augmenter la production d'obus. Et aujourd'hui, on utilise plus ou moins 2 millions d'obus de 155-122 mm sur la ligne de front. Et c'est ce qui est produit plus ou moins par les Européens. Il y a aussi, bien sûr, l'initiative qui a été faite par le président tchèque pour aller chercher des obus à travers le monde, qui vont vraiment sauver les Ukrainiens à ce moment-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine a déjà vécu un an sans aide américaine. Et ça, on a tendance à l'oublier. Pendant un an, de 2023, mi-2023, mi-2024, les Ukrainiens n'ont pas eu une goutte d'aide américaine. Ils ont eu le renseignement américain, ça on pourra en parler, mais il n'y a pas eu une goutte d'aide américaine dans les pipelines. Et les Ukrainiens étaient face à une armée russe beaucoup plus robuste après les campagnes de mobilisation massive de Poutine, et ont réussi à tenir la ligne de front. Ils ont reculé, mais ils ont réussi à tenir la ligne de front. Et le troisième aspect, qui s'inscrit aussi dans cette logique générale, c'est les drones. Et les drones, c'est vraiment de la production ukrainienne qui est boostée actuellement par les crédits européens. Et selon les dernières analyses que j'ai pu voir, c'est que c'est plus ou moins 50% des pertes actuellement sur la ligne de front qui sont dues aux drones. Et les drones, c'est vraiment des FPV, First Person View, de 200-300 euros qui sont produits en Ukraine localement, et on estime plus ou moins la production actuellement quotidienne de drones en Ukraine à 60 000 drones par jour. Donc rien que ça, ça participe au fait que le front ne va pas craquer du jour au lendemain. Ça, c'est indéniable. Il y a aussi la question du renseignement. Le renseignement américain est très important, c'est le meilleur au monde, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais encore une fois, sur la ligne de front, c'est le renseignement ukrainien qui prime, étant donné qu'il y a des drones à droite et à gauche qui analysent en temps réel les mouvements des troupes russes. Par contre, là où c'est beaucoup plus problématique, et c'est là où il va vraiment des trous dans la raquette, et c'est là où c'est criminel de la part de Donald Trump, mais bon, quand on voit son traitement de Gaza, ou voir son traitement en général de la politique étrangère, je pense qu'il va dormir sur ses deux oreilles, mais c'est pour les populations civiles, parce que là où on ne peut pas remplacer l'aide américaine, c'est les systèmes de défense anti-aérien de type Patriote, et les Ukrainiens ont des réserves en fonction des attaques russes entre 2 mois et 6 mois. Et surtout, le renseignement américain est essentiel pour traquer les missiles balistiques qui volent sur et contre les villes ukrainiennes. Donc en fait, ce sont les civils qui vont porter le poids de cette décision. C'est pas tant le militaire, parce que le militaire va tenir. Il va avoir des trous dans les raquettes, ça c'est indéniable. Il y a des armes qui vont manquer. Les HIMARS ont été déconnectés, par exemple. Après, bon voilà, les HIMARS, ils étaient brouillés à 80% par la guerre électronique russe, donc ils n'étaient pas aussi utiles qu'au début de la guerre. Et après, la question qui peut se poser, c'est aussi la question des Starlink, parce qu'on a, alors je sais pas qui est la ligne éditoriale de Backseat, si je peux dire que c'est genre Mister Flingo en kétamine en chef, Musk,
vas-y.
Ok.
Ouais.
Mais du coup, ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens, en fait, ont déjà fait face à plusieurs fois à ce que Musk coupe les Starlink pendant des offensives ukrainiennes. ou dans, pendant des offensives russes. Moi, je me souviens, j'étais sur l'offensive russe à Kharkiv cet été. On a eu des cas où, littéralement, les Starlink ont été coupés et les gens ne comprenaient pas pourquoi ça coupait, etc. Et on s'est rendu compte, en fait, que c'est Musk qui avait coupé. Donc, ça fait quelques temps que les Ukrainiens réfléchissent à une manière de pallier aux Starlink. Et en fait, toute l'opération de Kursk, alors pas que, hein, mais entre autres l'opération de Kursk qui a été menée par les Ukrainiens, donc cette incursion ukrainienne dans le territoire russe, a notamment été aussi un test pour voir les nouveaux moyens de communication que les Ukrainiens pourraient utiliser en cas de, d'abandon américain. Et en fait, ça fonctionne pas trop mal. Alors, c'est beaucoup moins efficace qu'un Starlink, etc. Ça coûte moins cher aussi. Mais en gros, ce sont des relais drones, tout simplement. Encore, c'est encore le drone qui vient au secours des Ukrainiens. C'est qu'on lance un drone qui fait un relais de communication entre un point A et un point Y, et ça permet d'avoir des communications. Alors, bien sûr, il y a le brouillage russe. C'est jamais essentiel. Mais donc, tout ça pour dire que si d'un côté les Européens montent en cadence et en puissance, que les Ukrainiens arrivent à tenir la ligne de front, surtout qu'actuellement il y a des contre-offensives plus ou moins localisées sur la ligne de front pour désenclaver notamment la ville de Pokrovsk, qui sont assez successful du côté russe, enfin du côté ukrainien, pardon, la picture n'est pas complètement noire. Alors c'est bien sûr une très mauvaise nouvelle pour l'armée ukrainienne, mais ce n'est pas non plus dramatique, parce que ça fait un an et demi qu'ils se préparent à ce scénario. Et je trouve que les Ukrainiens ont quand même pas mal de ressources, donc c'est un peu l'analyse que je ferais sur la situation. Surtout qu'ils ont des réserves, ils ont mis des réserves de côté, et que aussi ils font face à une armée russe qui est quand même beaucoup moins puissante qu'elle l'était en 2024-2023, avec l'armée russe qui a vraiment mis des derniers coups de rein sur Pokrovsk avant les élections pour avoir un peu une mainmise lors des négociations avec Trump et l'Ukraine. Mais en attendant, on a une armée russe qui n'arrive toujours pas à déloger les Ukrainiens de la poche de Kursk, une armée russe qui commence à vraiment ralentir autour de Pokrovsk. Alors, potentiellement se regrouper, on ne sait pas, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, mais on est quand même sur une armée russe qui est fatiguée. Une armée ukrainienne qui est aussi fatiguée, mais voilà, tout ça pour dire que le scénario n'est pas non plus dramatique, il n'est pas bon, mais il n'est pas dramatique.
Une dernière question pour toi de la part d'Emilio.
Oui, bonjour Joseph. Là, tu nous as dressé le bilan militaire de ce qui se passe en Ukraine, mais dans ce contexte international et le lâchage en race campagne de Kiev par Washington, comment aussi s'active la diplomatie ukrainienne? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? Comment elle se met en branle justement pour compenser le lâchage américain?
Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense aussi, avant de répondre vraiment à ta question en détail, je pense qu'il faut vraiment rappeler ce que c'est l'aide américaine. Et ce n'est pas pour minimiser ce que est l'aide américaine, mais l'aide américaine, si on la rapporte à l'ensemble de ce qui a été donné aussi bien par la population ukrainienne, par l'Union européenne et par les Britanniques et par et après par les États-Unis, c'est l'aide américaine, c'est que 30% au bout du compte, parce que les Ukrainiens ont levé 180 milliards de dollars pour les forces armées ukrainiennes. Chaque fois qu'on va dans un café, qu'on va à un concert, qu'on se promène dans la rue, les gens lèvent de l'argent pour les forces armées. Moi j'ai un peu ce sentiment de dire que les Américains se pensent un peu, il y a un peu un sentiment Yalta 45, je pense que Trump se croit comme en Yalta, à Yalta en 45, alors que l'aide américaine a été essentielle en 2022, essentielle, par contre elle n'est pas décisive. Donc pour parler des diplomaties alternatives, il y a plusieurs pistes. Donc bien sûr il y a les Européens, ça c'est indéniable, mais il y a aussi les Sud-Coréens, parce que les Sud-Coréens ne sont pas forcément très ravis de voir des Nord-Coréens qui prennent de l'expérience sur le champ de bataille pour potentiellement l'utiliser contre eux, notamment au niveau des pilotes de chasse nord-coréens qui commencent à prendre de l'expérience, aussi de la guerre des drones. Donc l'armée sud-coréenne, qui est la quatrième armée la plus importante au monde, peut-être une ressource. Je sais qu'il y a des discussions entre la Corée du Sud et l'Ukraine pour ce genre d'initiative. Qui plus est, à un moment où on ne sait pas si justement les Américains vont pas retirer leurs forces de maintien de la paix de la Corée. Il y a aussi les Turcs. Il ne faut pas oublier les Turcs qui sont et qui jouent un rôle très important. Depuis d'ailleurs le 16e siècle, 15e siècle, il y a eu 8 guerres russo-ottomanes, donc la mer Noire est quelque chose qui joue énormément, qui est très important pour les Turcs. Et il ne faut pas non plus négliger le symbolisme que représente la Crimée pour notamment quelqu'un comme Erdogan. Ah oui. Parce que la Crimée est donc à la base composée d'un peuple qui s'appelle les Tatars de Crimée, qui sont un peuple turcoïdes, de langue turque, musulmans, qui ont été génocidés, éradiqués, et encore plus, qui plus est, depuis 2014. Il y a eu une déportation lors de l'Union soviétique en 1944 de l'ensemble des Tatars de Crimée. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé par la propagande ou communication de la Turquie. Qui plus est qu'actuellement, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si on regarde ça d'un point de vue assez méta-géopolitique, il y a la question de l'affrontement russo-turc en Syrie, qui plus est après la chute de Bachar el-Assad, qui va prendre l'ascendant sur la Syrie après la chute de Bachar. Et on voit toujours que les Russes sont dans une position offensive pour se, avec les Israéliens aussi, hein, pour se maintenir en Syrie. Les Turcs, ils voient ça d'un mauvais œil, donc utiliser l'Ukraine pour mettre la pression sur la Russie serait aussi un moyen pour eux de les dégager de la Syrie. Et je pense que c'est quelque chose que les Turcs regardent. Et c'est plus ou moins les pays qui pourraient, un peu en dehors du bloc traditionnel occidental, pourraient aider l'Ukraine de manière alternative. Et il y a aussi la question des Chinois. Il ne faut pas négliger ça. Avec les Chinois, maintenant, notamment avec l'arrêt de l'aide humanitaire de USAID par les Américains, avec les Chinois qui, maintenant, qui proposent de combler cette aide-là. Alors, les Ukrainiens n'ont pas accepté, mais... En tout cas, les Chinois sont plus ou moins en embuscade pour des raisons complètement annexes, mais qui sont quand même importantes à prendre en compte.
Merci beaucoup, Joseph. C'est absolument passionnant. On pourrait continuer à échanger et à t'écouter pendant encore très longtemps. Mais justement, si on veut continuer à s'informer grâce à toi sur ce qui se passe en Ukraine, toi qui es sur le terrain, où est-ce qu'on peut te lire? Où est-ce qu'on peut te suivre? Dis-nous un peu.
Alors moi j'ai une chaîne YouTube sur laquelle je fais régulièrement des analyses un peu de ce style, un peu face caméra, qui s'appelle Confluence par Joseph. Et après sur mon Instagram, Joseph Roche. Et après je suis correspondant pour un média qui s'appelle La Tribune de Genève, pour des médias anglais, Dispatch, What Why, La Presse au Canada, L'Écho en Belgique. Je suis un peu un freelance qui essaye de vendre mes articles à plus ou moins qui est acheteur. Donc c'est un peu la vie du freelance. The Hustle Life.
Eh ben, merci beaucoup, Joseph. Courage à toi et merci de nous informer comme
merci
ça. Merci d'être venu en tout cas dans Backseat ce soir pour nous parler.
Merci beaucoup.
Merci, Joseph.
Merci à vous.